Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, d'être au rendez-vous quotidien de notre planète football. Il s'en est passé des choses hier soir, une sacrée soirée pour le football européen sur l'antenne de RFI et puis à travers l'Europe du spectacle, 63 buts inscrits au cours des 18 rencontres. Et au final, le sans faute des clubs français, tous qualifiés. Avec panache pour les Dogs du LOSC, avec caractère pour le Paris Saint-Germain, avec plus de difficultés hier soir pour Monaco et Brest. Et puis Manchester City qui s'est sauvé avec difficulté là aussi, mais les Citizens et Pep sont là pour la suite, une suite très prometteuse. Et puis un sujet un peu moins étoilé, un peu plus terre à terre, et c'est du côté de la Bretagne, pas à Brest, mais à Rennes. L'Argentin Jorge Sampaoli, sur le point d'être remercié par le stade rennais. L'entraîneur n'est là que depuis 2 mois, mais après 10 matchs, les Rennais sont descendus à l'avant-dernière place, 16e sur 18, ils sont relégables. Est-ce une grossière erreur de casting? N'était-ce pas prévisible? Eh bien, nous en parlerons dans cette émission. Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Vous arrivez d'où là alors?
De Stuttgart.
Stuttgart.
Oui, il faisait froid. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Il faisait très très froid.
Attends, l'ambiance devait être
très chaude. Ça c'est vrai. Vous avez... Enfin, très chaude.
Puis refroidi.
Mais qui s'est effectivement totalement climatisé après. Je vous confirme.
Bonjour, Chef Guémour.
Bonjour Annie. Bonjour à tous.
Et puis alors notre star dans ce studio, un lion qui rugit toujours dans ce micro. Bonjour. Bonjour Benjamin Moukandjo.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être là avec nous dans ce studio. On va donc passer en revue tous ces matchs et surtout certains des résultats. Radio Foot, préparé avec notre duo David Finzel et Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti.
Il tiro miracolo su Pavard.
Vero, c'est beau, fantastique. Doucement Dembélé, le triplé.
Sta buscando Kylian Mbappé, la squadra è entrata da Sierra. Chiellini. Game of the show.
Gol. Il toro.
Voilà David, entrant et buteur.
Play. Mais à quel arrêt, hein, de Donnarumma.
Two goals in 9 minutes.
Et Gabriel, lui aussi, Gabriel a marqué de la tête. La soirée fabuleuse des Dogs. 6-1, tout le monde chavire à Pierre Mauroy.
Une soirée folle et un véritable feu d'artifice donc dans les cages des gardiens des 36 équipes engagées dans cette Ligue des Champions. 63 buts inscrits, je vous le disais, et plusieurs scores fleuves, à commencer par celui des Lillois. Ils ont royalement gagné leur place dans le top 8 des meilleurs clubs d'Europe avec Liverpool, le Barça, le Bayern ou l'Inter. Ils sont 7e et donc directement qualifiés en 8e de finale. Les Dogs n'ont pas manqué. Et oui, de mordant devant leur public, vainqueur face au Feyenoord sur le score de 6-1, historique en Europe pour Lille, ce score. Et leur entraîneur, on va l'entendre, Bruno Genesio, il gardait son ton mesuré, mais la joie était bien là.
Si le match parfait existe, parce que je pense que ça n'existe pas, mais en tout cas la soirée est parfaite parce que d'abord, on a gagné, ce qui était le premier objectif. C'était la seule chose qu'on maîtrisait ce soir. Deuxièmement, les résultats nous sont favorables et on est qualifié directement pour les huitièmes de finale, ce qui a quand même l'avantage de nous épargner 2 matchs supplémentaires. Et troisièmement, c'est de voir la joie de tout le monde, la joie des joueurs, du staff, du public, cette communion-là avec le public à la fin. C'est pour ça qu'on aime notre métier, c'est pour ça qu'on aime ce sport.
Il est sérieux au micro, mais quand on le voit dans les vestiaires avec les joueurs, on voit qu'il est au diapason, Benjamin.
Ouais, moi j'aime surtout Bruno Genesio. J'adore cet entraîneur parce que je trouve que c'est pas un entraîneur qui se cache. Quand ça va mal, il n'hésite pas à venir le dire. Et puis, il prend des responsabilités. Il a connu un début de saison difficile, notamment en Ligue 1. On parlait tout à l'heure, lors de son interview, qu'il est passé par les barrages pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc, ça devait vite quand même. Ça devait faire quatre matchs de plus que les autres. Donc, je trouve que Lille, aujourd'hui, est montée au fur et à mesure. Lille a eu beaucoup de problèmes en début de saison, des blessures, des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur niveau. Oui, oui. Mais on voit quand même qu'il réussit à la fin à mettre une équipe compétitive. Parce que quand vous voyez Jonathan David qui est remplaçant hier, Bayo qui joue, qui est normalement supposé partir dans les prochains jours. Et on voit quand même que cette équipe, en termes de qualité, de performance, ne perd pas. On voit Baker qui joue couloir gauche, couloir droit. Donc, avec des blessés, il réussit quand même. Je ne veux pas dire bricoler, parce que pour moi, ce n'est pas bricoler.
Non, justement, c'est découvrir.
Voilà. Et on voit que ces joueurs se mettent tout de suite au diapason de l'équipe. Il y a un vrai collectif qui dégage de cette équipe, avec un gardien, bien évidemment, redoutable dans les buts. Pour moi, c'est la vraie surprise de cette Ligue des Champions. Je ne sais pas où est-ce que va aller Lille, mais en tout cas, déjà, ce qu'ils font et ce qu'ils nous montrent semaine après semaine, je trouve que c'est remarquable.
Chéri Guémour, effectivement, leur campagne est épatante. 2 défaites pour 5 victoires en 8 matchs. Et attention, les victoires, c'est sur les 2 clubs de Madrid. À Madrid, contre l'Atlético, contre le Real, on s'en souvient, comme ça, il n'y a pas de jaloux entre madrilènes. Il y a aussi Bologne, enfin, ce nul avec la Juve. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'exploit ?
Ah, pour Lille, tout à fait. J'ai essayé de trouver une comparaison. Je pense que c'est l'équipe, le club français qui m'a le plus impressionné depuis le grand Olympique Lyonnais des années 2000. Évidemment, il y a eu des bons matchs, je sais, avec le PSG, des matchs... Mmh. Ok, d'accord. Mais au niveau de l'implication de tout le groupe... Il peut y avoir des blessés, parce que ce n'est pas
les moyens du PSG.
Oui, évidemment. C'est pour ça que je parlais de Lyon, même s'ils avaient des gros moyens.
Justement,
évidemment,
ce n'est
pas les moyens du PSG.
Je suis d'accord avec vous.
On peut aligner n'importe qui. Il a fait des équipes bis, A prime, B, et ça performe toujours. Ça, c'est le rêve, j'ai souvent dit, c'est le rêve des entraîneurs. C'est quand il y a une émulation qui tire l'équipe vers le haut. Ils ont été en plus performants en Ligue 1, bon, ils sont pas très loin des places européennes. Oui. Je suis complètement subjugué. Voilà, pour moi, si on parle d'exploit des clubs français, c'est vraiment Lille. En plus, ça joue bien, c'est plaisant, ils marquent des buts.
C'est ça. Pour prolonger votre propos, Chérif, il y a eu cette fameuse série de 21 rencontres sans la moindre défaite pour Lille, que ce soit donc en championnat et en Coupe d'Europe. Ouais. Vous avez évoqué les adversaires. Alors ça, d'un certain calibre, et au final, parfois avec intelligence, on se souvient à l'Atletico, où Bruno Genesio, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait beaucoup fait tourner pour cette rencontre-là.
Oui, c'est ce que je dis.
On disait, mais il est fou, il donne le match, entre guillemets, et non, au final, il a tenté et il a réussi. Ce genre de performance...
Il ose tenter des choses en plus, c'est pas on reste derrière et on
non,
attend,
c'est une équipe
on
qui joue. D'où, parfois le risque parfois pris, et on l'a vu aussi derrière moi avec des défaites de Lille, mais ça veut tenter, ça veut jouer, et ne serait-ce que pour ça, on salue l'exploit qui en plus est réalisé.
Moi, je ne sais même pas si c'est réellement un exploit, hein, parce que pour moi, un exploit, c'est sur un match.
Benjamin,
tu réalises un match parfait, le match qu'on n'attendait pas, mais quand ça dure
justement.
Moi, je parlais d'exploit sur leur campagne européenne, parce qu'on se souvient parfois, Lille avait complètement raté ses campagnes européennes. Je me souviens, il y a quelques années, ils avaient, je crois, 0 point.
Et je rappelle, il démarre par une défaite au Sporting, 2-0. Quand il démarre là-bas, en plus, on se dit, bon, ben, Sporting, que qui reste, c'est à manger. Il y a le Real qui arrive juste après, c'est fini, ils vont avoir 0 point ou 2 matchs.
On va préciser l'exploit, c'est-à-dire ce que j'ai apprécié par-dessus tout avec Lille, c'est qu'ils ont détruit le vieux prétexte des clubs français de ne pas pouvoir jouer 2 matchs par semaine. Un match de Coupe d'Europe.
Bah, ils en jouent plus, hein, Lille, parce qu'ils ont la Coupe de France en plus.
Absolument.
Coupe de France. Et en plus, n'oubliez pas, ils viennent des barrages.
Ouais.
Depuis le mois de juillet.
Avec ses 3e tour première puis barrage. Donc c'est 4 matchs en plus.
Ouais. Donc voilà, c'est possible pour un club français de jouer le mercredi, enfin, ou mardi, et de jouer le week-end.
En plus, hier, il y avait quand même des absents notables dans ce groupe ces derniers temps. Alors, Zegrova, qui n'est plus là en ce moment,
blessé,
malheureusement, alors que lui, ça peut être, parfois, croit-on, et on a vu l'étincelle inattendue. Là, il n'est pas là et les autres font le boulot. Benjamin André, qui est ce joueur qui se sublime à chaque rencontre, qui est vraiment un phare dans ce groupe. Alors, les meilleurs Lillois, est-ce que c'est facile de dire si c'était Jonathan David qui a marqué hier, Rémi Cabella qui a marqué aussi, ce petit Ousmane Sarraoui qu'on découvre et que Bruno Genesio nous fait découvrir surtout. Et puis, vous le disiez et vous le citiez, Benjamin, il y a Lucas Chevalier, si grand dans les buts lillois.
C'est une compétition où au début avec le tirage, tout le monde nous voyait pas du tout à cette place-là, même pas barragiste des fois. Donc, et le fait de conclure comme ça chez nous, donner du bonheur aux supporters et à nous-mêmes, et puis le fait de passer un tour supplémentaire, ça va aussi nous permettre de souffler aussi dans ce calendrier qui est très chargé.
Dans cet effectif, qui vous impressionne ou qui vous épate, Benjamin, vous avez le droit de dire tout le monde, je vous laisse dire.
Non, je trouve que c'est un collectif qui a su se trouver. Après, bien sûr que dans un collectif, il y a toujours des individualités qui sont fortes. Notamment, on parlait tout à l'heure de Boadi, qui est un joueur intéressant. Pour moi, Sahraoui aussi, qui, allez, crescendo est monté. Mais quand je regarde l'équipe de Lille, j'ai souvent, et c'est là où je trouve que Bruno Genesio a été fort, parce que je voyais deux visages de Lille, quand il y avait Zegrova et quand Zegrova n'était pas là. Et moi, ça m'inquiétait parce que je me disais qu'avec sa blessure, est-ce que Lille va réussir à se passer de ce joueur, parce que c'est lui qui déclenchait toutes les actions offensives du côté de Lille. Et c'est où Bruno Genesio a été fort, c'est que cette individualité qui n'est pas présente aujourd'hui, il a réussi à mettre un joueur comme Sahraoui, Kabela même, j'ai envie de dire, qui a fait un vrai match hier. Et bien, tout le mérite à l'entraîneur, parce que ces joueurs-là sont difficilement remplaçables.
Et puis Kabela, on se souvient, ses grandes heures, croyait-on, c'était du côté de l'OM.
Bien sûr.
Après, il s'était un peu perdu en Angleterre et tout. C'est incroyable.
Ouais, et même Montpellier avant, c'est vraiment là où il a explosé. Et c'est vrai que Kabela, on se disait, bon, c'est le, entre guillemets, le petit vieux dans cet effectif relativement jeune de Lille, qui va entrer de temps en temps, etc. Et c'est ce qu'il fait parfois ponctuellement. Parfois, il prend ce rôle de titulaire et il réussit à encadrer ces jeunes et à être décisif. Hier, il a marqué de la tête, c'est dire quand même. Donc, c'est vrai que là où Genesio, juste pour prolonger votre propos, Genesio, ce qu'il arrive à faire, certains entraîneurs les plus forts arrivent à le faire, c'est réussir à cette alchimie entre jeunes et moins jeunes. Vous parliez d'Ayoub Bouadi, je parle de l'intelligence aussi, c'est un gamin qui continue sa licence de mathématiques. Il a obtenu son baccalauréat avec mention très bien et veut aller jusqu'à sa licence de mathématiques.
Et c'est un joueur mathématique, tactique.
Mais ça, et d'ailleurs, il le disait en interview, je me souviens, fin novembre, où il disait que l'aspect mathématique le fait réfléchir autrement sur le terrain. Quand vous avez ce genre de gamin qui vous fait réfléchir au milieu de terrain, quand vous avez des briscards comme Kabela, vous dites, vous avez une équipe très complémentaire.
Prenez un Haraldsson. Il ressemble à rien. On ne connaît pas. On ne sait pas d'où il vient. On ne va pas se mentir.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais.
Le mec, tu lui donnes sa chance une fois, deux fois, il l'a saisi. Mais parce que c'est l'émulation, il a envie d'y être lui aussi. Et le mec, il attaque, il est partout, il gratte des ballons. Voilà, c'est Haraldsson.
Mais je pense aussi que c'est dû à la concurrence, parce que c'est l'émulation. J'avais fait Lille en Ligue 1 et notamment j'avais posé la question à Bruno Genesio et qui nous disait effectivement au micro qu'il y a cette espèce de concurrence saine qui s'est créée. Parce qu'en début de saison, c'était compliqué, il y avait beaucoup de blessés, les joueurs sont revenus. Mais la concurrence, parce que quand tu mets un joueur comme Sahraoui qui n'a pas l'habitude d'être titulaire, tu le mets à la place d'un Zegrova par exemple, il sait que Zegrova est là, donc il est obligé d'être performant s'il a envie de rejouer le week-end après. Et forcément, ça tire le groupe vers le haut. Et les joueurs aujourd'hui se retrouvent quasiment à leur niveau.
Mais encore une fois, c'est ça le rêve des entraîneurs.
Juste ce qui est fort quand même avec Lille et donc avec Bruno Genesio aussi. Le week-end dernier, ils perdaient à Strasbourg, les Lillois, 2-1. Réussir à les remettre en place, à leur faire comprendre, on a un gros match, les gars, on peut pourquoi pas atteindre le top 8, les recalibrer pour ça. Ça aussi, c'est fort, surtout avec des jeunes parfois.
Oui, puis un score de 6-1, c'est pas non plus. Feyenoord, ils sont dans le groupe des 24.
C'est une belle équipe,
donc c'est incroyable. Est-ce que pour vous, hier, on parlait de Brest et on se disait, Brest, maintenant, on en parle. En Europe, du côté de l'Europe, en Espagne et tout ça, les gens parlent de cette équipe. Est-ce que, en étant dans ce top 8, Lille a gravi une marche et a gagné un statut européen, Benjamin, ou c'est trop tôt?
Après, je pense que on peut pas. Enfin, il faut pas faire de comparatif avec Brest parce que Lille a quand même pas une histoire, mais Lille c'est une équipe qui vient et qui revient souvent en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Brest c'était sa première.
Brest c'est parce que c'est fascinant, mais là.
Mais c'est trop tôt de le dire parce qu'on attend la confirmation.
Ouais.
Là, c'est une année exceptionnelle avec plein d'étoiles dans les yeux. Ça va bien se passer, forcément. J'ai même envie de dire que même si ça s'arrête là, au tour suivant, c'est déjà bien pour Lille. Maintenant, on attend qu'ils reviennent. On sera déçus, mais on attend qu'ils reviennent l'année prochaine, qu'ils reviennent chaque année, comme le PSG notamment, qui s'installe dans cette compétition.
Moi, j'ai une pensée très bizarre sur Lille, et je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée. cette équipe de Lille, cette année, elle aurait gagné l'Europa League. Je dis ça parce que c'est une compétition qu'on n'a jamais gagnée. Mmh. Et je me suis dit, tiens, dans les poules normales, ils auraient peut-être fini troisième, parce qu'ils seraient tombés sur des gros aussi. Mmh. Et tout ça pour dire, mais c'est pas une critique, au contraire, c'est pour dire la qualité, gagner une compétition européenne. Et c'est trop tôt, Annie, c'est trop tôt pour aujourd'hui.
Je vous rejoins, parce qu'effectivement, mais top 8... En plus, bon, donc vous faites ça, c'est énorme. En plus, je rappelle, avec le tirage au sort, Lille est sûre de tomber sur l'une de ses quatre équipes suivantes. Ouais. Le Sporting, Bruges, l'Atalanta ou Dortmund. Alors, Atalanta ou Dortmund, c'est loin d'être évident, évidemment. Mais j'entends par là, c'est pas le Real, c'est pas le City. Même si vous allez me dire City, évidemment. Mais c'est pas entre guillemets, et je mets vraiment les guillemets, pas le méga nom absolu.
Ouais.
Donc, sous-entendu, et je vous assure, je lisais tout à l'heure plusieurs gros comptes de suiveurs, de fans lillois qui disaient: ah, mais l'écart, c'est envisageable, en fait. C'est vous dire, on part loin dans l'esprit de certains fans lillois.
On commence à rêver.
Donc, le problème, c'est que c'est pour ça que top 8, c'est une étape. Mais si vous êtes éliminé le 8e, on se dira: ah ouais, mais au final, tout ça pour ça, ben non, ça ne sert pas à grand-chose, en fait.
Non, je suis d'accord.
Donc, on attend plus de ces Lillois, Lillo-Phoenix en tout cas, à la fin de cette soirée. Et puis, trois autres clubs français dans sa roue. Certes, eux, soumis au barrage, hein, tant pis pour eux. Mais en tout cas, ils sont là. Comme le Paris Saint-Germain. C'est vrai que si on avait un à mettre dans le top 8, c'est lui qu'on aurait mis. Il faut dire qu'en deux matchs spectaculaires, eh bien, ils sont quand même tirés d'un mauvais pas. Ces Parisiens qui deviennent comme les autres grands d'Europe, on va dire. Ils sont prêts au sortir de l'hiver, hein, tranquillement, comme le Real, comme d'autres. Et ils ont rétabli les situations, mais ils sont quand même 15e. Après le 4-2, donc la semaine dernière, c'était sur la pelouse du Parc des Princes, il y a 8 jours, eh bien, les joueurs de Luis Enrique se sont imposés à Stuttgart sur le score, donc cette fois de 4-1, et grâce à un triplé du buteur de l'année pour ce groupe, un ancien Blaugrana.
Ça fait 4-0 ici à Stuttgart. Et
le
festival d'Ousmane Dembélé, triplé pour le numéro 10 parisien. Décidément, c'est sa soirée, 4-0 pour Paris.
Bah, c'est particulier.
Est-ce que vous arriveriez à mettre des mots dessus, par exemple?
Fion.
C'est-à-dire?
Zoom. Fion, fion, fion.
Ah oui, quand même.
Bon, fallait quand même bien se moquer de ce joueur, mais peut-être une autoflagellation quand même, parce que si depuis le début de l'année, on se disait, bon, c'est toujours à côté, et la saison dernière, on s'en souvient, on en a souffert même quand il jouait sous le maillot des Bleus, et bien là, c'est son premier triplé en 9 saisons en Ligue des Champions de cet Ousmane Dembélé. Alors, monsieur plus, parce qu'il en est, si je ne me trompe pas, à 16 buts cette saison, toutes compétitions confondues, et je crois que c'est plus que les 4 dernières saison dans ce style.
Le truc, c'est que c'est même pas
on le redécouvre ou c'est un retour.
L'un et l'autre, j'ai envie de dire, parce que j'ai presque envie de dire on le découvre, parce que encore une fois, le nombre de buts qu'il
l'année
marque
l'année où il a le plus marqué, je crois que c'est 14 buts sur une saison.
C'est pour ça, Dortmund, je pense.
C'est pour ça le fait de le voir marquer autant et sur un temps aussi court au final, puisque la séquence elle a démarré, rappelez-vous, avec le trophée des champions, c'était il y a pas si longtemps, au début du mois de janvier, où il a marqué ce fameux but. Et d'ailleurs, ça a fait beaucoup rire ou grincer des dents, c'est selon, après le match où on lui disait, les journalistes lui demandaient: mais pourquoi vous marquez beaucoup de buts? Mais j'ai fait un pari avec des potes, comment ça? Mais j'ai parié des Patek et des Rolex. Des montres de luxe de très grande valeur.
Mais quand même avec les Bleus aussi, parce que
vous avez raison.
On avait quand même aussi Didier Deschamps qui insistait et ça devait l'aider.
Mais c'est vrai que hier, typiquement, j'avais la chance de le voir de près, entre guillemets. Et entre guillemets, et ça se voyait aussi à la télé ou ça s'écoutait à travers les commentaires radio, presque il y avait de la légèreté dans les jambes. Ça s'était vu même en seconde période lorsqu'il est entré face à City. Sincèrement, j'ai envie de dire, malgré son âge, presque l'insouciance de ses gestes, c'était beaucoup plus simple. Pas besoin de... Parfois, il avait juste besoin de pousser la balle avec sa vitesse et il frappait. Hier, il l'a fait, il a marqué.
Notamment son troisième but.
Ah, c'est ça.
Dembélé, que nous, on connaît dans le passé, il n'aurait pas frappé.
Non, il aurait dribblé, il serait revenu sur ses pas, etc.
Je pense que déjà, ce qui a changé au-delà du fait qu'il soit
dites-nous
buteur...
Dites-nous, vous aussi,
oui, parce
buteur.
Que bon,
non, mais parce qu'on s'interroge, on voyait bien qu'il est doué. Vous parlez d'innocence, c'est quand même sa caractéristique. On l'a toujours vu débouler comme ça, sans même trop lever la tête. Mais c'était le après qui manquait.
Oui, parce que Dembélé, il a toujours été spectaculaire. Et quand on regarde ses matchs aujourd'hui, un ou deux mois en arrière, il est moins spectaculaire, il est plus efficace. Et je pense que c'est ce qui lui manquait. Parce que moi, j'ai regardé ses matchs à la Coupe du Monde, à l'Euro aussi.
Et ça
quand ça débordait sur le côté gauche, Dembélé ne rentrait pas dans la surface.
Et ça vient d'où ça? C'est
l'entraîneur? Ça vient du fait qu'il a, oui, l'entraîneur, et puis il a compris que pour marquer des buts, il faut qu'il soit dans la surface. Et on voit
et
de plus en plus.
Il faut qu'il en marque parce qu'il se crée des situations tout seul, donc autant aller jusqu'au bout.
Maintenant même, il fait moins de différence, j'ai envie de dire, sur son côté droit. Parce que Dembélé, il décrochait souvent, il en a un contre un. Je ne sais pas, toi qui as été au match, est-ce que tu l'as vu déborder hier une fois? Est-ce qu'il a fait un contre un?
Il y avait surtout beaucoup d'intelligence entre lui et Désiré Doué. Presque Désiré Doué qui prenait ce couloir, lui qui allait dans l'axe.
Et lui, il rentrait beaucoup dans l'axe. Et il rentrait dans
Hakimi. Oui, absolument. Bien sûr. Là où parfois on se disait, Hakimi, Dembélé sur le côté droit, ça fonctionne, etc. Au final, Hakimi, Doué, ça fonctionne plutôt. Et ça permet à Dembélé d'être dans l'axe. Et au final, de fonctionner avec Hakimi et Doué aussi. Là, il faut reconnaître que cette alchimie fonctionne plutôt bien.
Alors, si on peut réhabiliter Dembélé,
c'est ce qu'on est en train de faire.
J'aimerais qu'on réhabilite d'abord Luis Enrique, que j'ai toujours défendu, je précise.
Moi pas, et vous avez raison. Je me mets dedans parce que je ne l'ai pas toujours défendu et vous avez raison.
Alors moi, j'ai toujours défendu, donc on va revenir aussi à ce qu'a apporté Luis Enrique à Dembélé. Je pense que d'abord, il l'a envisagé.
Ils se connaissent bien, rappelons-le, depuis Barcelone. Et ça compte.
Oui, bien sûr. Et comment dirais-je, Luis Enrique a arrêté de caricaturer Dembélé en joueur de débordement à droite et qui centre bêtement. Il lui a dit « Non, tu seras faux neuf ». Tout le monde lui est tombé dessus, faux neuf, et ça veut dire quoi et tout, pourquoi on joue pas avec un vrai neuf et tout. Luis Enrique savait ce qu'il faisait, il a donné énormément de confiance à Dembélé, il l'a toujours mis en valeur après les matchs, dans toutes les conférences de presse. Ils ont fait des conférences de presse ensemble. Il a bâti le projet offensif sur Dembélé. En faux neuf, on l'a beaucoup moqué, on n'a pas compris. Et au bout d'un moment, Dembélé a compris qu'en effet, il pouvait se recentrer dans l'axe et être finisseur. Et pourquoi? Parce que tous les entraîneurs d'avant, je pense à Barcelone, même à Dortmund, tu débordes à droite, tu cours vite, tu es rapide. Ouais. Non, Luis Enrique a dit non, tu es plus intelligent tactiquement, tu vas avoir des opportunités. Au début, ça n'a pas marché parce qu'évidemment, il n'était pas prêt, il était très speed. En plus, le club de Paris était vraiment très, très tendu en Ligue des Champions, ça ne gagnait pas. Par contre, quand ça réussit, ça donne ce que ça a donné hier soir.
Il lui a donné la confiance, match à lui clairement, tout seul. Clairement. Et juste, la semaine dernière, déjà.
Et la semaine dernière, évidemment.
Entre guillemets, Salim, vous corrigez Annie, ou plutôt prolonger votre propos, mais c'est une idée reçue, comme pour dire à quel point Luis Enrique ou Dembélé, c'est lié dans nos esprits. Ouais. Luis Enrique n'a jamais entraîné Dembélé avant, puisque au Barça, Dembélé est arrivé lorsque Luis Enrique a quitté le Barça.
Ah, oui,
mais, pour prolonger votre propos, ce qui est vrai, c'est que Luis Enrique, même lorsqu'il est allé à la Roma, à l'époque, des gens lui parlaient de Dembélé aussi. C'est vous dire à quel point Luis Enrique, depuis très longtemps, il pense à Ousmane Dembélé et enfin, il l'a entre ses mains. Et chérie, vous l'avez dit, enfin, il arrive à l'utiliser entre guillemets comme il faut maintenant.
C'est vrai qu'il a pas pris Ramos pour les deux matchs importants.
Absolument, totalement.
C'est un signe.
Ça veut dire.
Mais Ramos, il se le met de côté. Moi, je pense pas qu'il l'ait définitivement
du tout.
De côté, je crois
du
pas.
Tout, absolument.
Alors justement, est-ce une équipe enfin à la hauteur? Alors, je dirais à la hauteur de ses ambitions, de ses moyens aussi et des attentes. Les joueurs, semblent aller dans le sens d'un petit déclic qui se serait produit. Quand, comment? Peut-être qu'ils ne nous le diront pas, mais en tout cas, l'attaquant Désiré Doué, au micro de notre envoyé spécial, Cédric De Oliveira, parle de ce renouveau, on va dire.
Je ne sais pas s'il y a eu un déclic, on essaie juste d'appliquer ce que le coach nous demande. Voilà, on se connaît de mieux en mieux, on essaie de trouver les automatismes sur le terrain, je pense que ça se ressent et on continuera à travailler.
On continuera à travailler. Il y a eu un déclic pour vous durant la saison où on voit une progression finalement continue en dépit des résultats parfois. On se souvient, on comptait les occasions manquées du Paris Saint-Germain premier trimestre.
Il y a eu un déclic en Ligue des Champions, bien évidemment, parce qu'en championnat, ils écrasent tout. Quand ils veulent jouer, personne ne peut se mettre sur leur chemin. Et le match était contre City, tout simplement, parce qu'en face de toi, tu tombes face à une équipe qui a déjà gagné la compétition, même si on sait que City, c'est pas le grand City, mais le nom aussi, il porte, et puis il en est pour quelque chose. Et ce match-là, c'était un match important, parce qu'il fallait gagner pour
c'était
Paris.
C'était le test, oui.
C'était un test.
Crash test.
Et ils l'ont gagné d'une manière remarquable. Mais moi, j'ai pas envie de balayer, de revers de la main tout ce que Paris a fait avant. Quand on analyse la performance, il faut pas oublier qu'avant ces deux matchs-là, et même, je dirais même, la première mi-temps contre City, je les ai pas trouvés extraordinaires. Ils ont même été menés au score. La réaction, elle est parfaite parce qu'il fallait réagir. Ils ont bien réagi. Mais attention, parce que pour moi, ils ont encore montré des lacunes. Ont dominé hier, ils ont dominé City. Paris, pour moi, n'est pas encore réellement guéri, n'est pas encore cette équipe que je vois qui va aller gagner cette compétition.
Bien sûr.
Moi, c'est la progression. Moi, je l'avais dit pratiquement dès le mois de septembre. J'ai dit, regardez, cette équipe de Paris, elle est intéressante parce que pour la première fois depuis que les Qataris sont là, ils jouent en équipe. On me disait, mais non, Chérif, tu ne peux pas comparer le PSG de Laurent Blanc. Je disais, non. Il y a des inconnus, c'est une équipe qui est très jeune, il y a des joueurs qui débarquent et tout. C'est la première fois que je les vois tous faire le pressing ensemble. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je dis, ouais, ça va finir par payer. Et je suis désolé, on a été vachement dur avec Paris quand ils jouaient contre Arsenal. Oui, en deuxième mi-temps, en effet, ils ont bien joué, mais Arsenal les a laissés arriver puisqu'ils menaient 2-0. Non, je ne suis pas d'accord. Ils ont fait reculer cette équipe d'Arsenal. C'était un peu anarchique. Il y a un poteau, il me semble, à un moment. Enfin bon, peu importe.
Sûrement.
Mais c'est une équipe qui est en progression. Et de toute façon, Luis Enrique l'a dit. Il a dit, vous verrez, en février, ce ne sera pas la même équipe que le mois d'octobre.
Ah oui, il a le mode de pensée.
Voilà, mais je suis d'accord avec Benjamin. C'est une équipe qui n'est pas encore guérie. Hein,
Alors, quand même, aussi en championnat de France, disons-le, parce que ce Paris Saint-Germain, pour l'instant, il est très loin devant. Et puis, les poursuivants, il les a battus et assez sèchement.
Oui, c'est ça. C'est quand vous battez Marseille.
Donc, quand même, il y a une progression, comme dit Benjamin.
Totalement. Victoire à Lens.
Et pas seulement.
Absolument, vous avez raison. À Lens, à Marseille, à Monaco, vous battez Lille. À Lille aussi.
Il faut être très costaud.
Enfin, là, typiquement, effectivement, le PSG a fait comprendre en Ligue 1 qu'ils étaient très, très au-dessus, largement au-dessus. Vous imaginez, Luis Enrique contre Reims la semaine passée. Il y a eu un certes, mais il s'est dit, bon, je vais faire tourner. Je peux me permettre. Et ça va être intéressant de voir Luis Enrique maintenant. Là, on l'a vu donc contre Reims aussi. S'il va le faire assez souvent, ça, en championnat.
On va voir samedi à Brest.
S'il va pas hésiter à faire tourner assez nettement en se disant, il y a la Ligue des Champions dans 3 jours, dans 4 jours, j'ai besoin de préserver mes gars. Surtout qu'il a un banc. Gonzalo Ramos, vous l'évoquiez, je le fais pas, je titulaire pas en Champions, je titulaire peut-être en championnat. Kangini, il y a d'autres joueurs, Fabien Ruiz.
Saisir sa chance, c'est ce que j'adore avec Lille, c'est que tous les entrants, ils ont saisi leur chance et maintenant, ils sont pratiquement.
Mais il peut le faire, il a un Matela quand même, un Ligue 1 qui lui permet aujourd'hui.
C'est pour ça que j'ai bien aimé Doué, par exemple. Doué au début, on l'arrive et tout, le petit Rennais qui débarque au Parc des Princes, qui est complètement écrasé. Et là, il est en train de devenir méchant, mais dans le bon sens du terme.
Mon petit bémol, mini, alors vous avez évoqué, le PSG n'est pas guéri, loin de là. Défensivement, vous avez évoqué. Et malgré tout, la profondeur de banc défensive. Sur le côté droit, Hakimi est évidemment hors concours. S'il n'est pas là, on ne lui souhaite pas blessé, suspendu. On met qui ? Vous avez compris. À gauche, pardon, hier, j'ai bien regardé Lucas Hernandez. Je me suis posé sur son cas, j'ai regardé. C'est évident, loin d'être un mauvais, loin de là. Mais ça n'a rien à voir avec Nuno Mendes dans la manière de jouer. Quand c'est Nuno Mendes et Lucas Hernandez, vous jouez de manière totalement différente et sincèrement, mais vous jouez quasiment plus à gauche. Heureusement qu'il y a Barcola pour prendre de la vitesse, mais sinon il n'y aura pas quelqu'un pour dédoubler sur son côté. Et dans l'axe, au final, maintenant vous n'avez plus que Pacho et Marquinhos en fait, et Beraldo. Voilà. C'est quand même peu en cas de blessure, en cas de suspension. Attention à ce niveau-là. Et surtout qu'on ne va pas recruter côté PSG.
Et tu pourras. Skriniar, il est sur le départ.
Mais non, il est parti. On considère parti effectivement.
Il y a qui arrive, mais précisons-le, pour ce qui est de ces recrues et tant là que dans d'autres clubs, elles ne joueront pas avant les huitièmes de finale.
Ah non, en barrage, ils peuvent.
Ah, ils peuvent finalement.
Dès les barrages.
D'accord.
Absolument.
Je pensais que c'était pour tout le monde, disons.
À partir des barrages.
Ah bon, alors ils ont de la chance, ils vont l'intégrer là. Peut-être.
Barrage qu'il y a.
Peut-être qu'ils en ont pas besoin finalement.
Oui, contre Monaco ou Brest, est-ce qu'ils en ont besoin?
Parce qu'on dit en sentant la menace de la concurrence,
c'est ce qui a fait bouger Barcola
tout d'un coup.
C'est vrai, la concurrence.
C'est le but aussi.
Barcola pourrait repasser à droite, je suis pas inquiet.
En tout cas, les deux autres clubs français sont parmi les 24 qualifiés aussi. 17e place pour Monaco. Alors, ils auront beaucoup descendu dans ce classement. Ils seront beaucoup descendus. Battus hier, en plus, très sèchement par l'Inter.
Encore en rouge.
Un grand Inter, 3-0.
Ils ont fini à 9.
Non, mais c'est... Plus une blessure.
Et puis 18e place pour le Stade Brestois. Alors, battu aussi 3-0, mais c'était les Merengues en face, les champions d'Europe en titre, qui étaient là-bas perdus du côté de la Bretagne dans un tout petit stade. Mais l'entraîneur, allez, on va dire le magicien des Pirates, Éric Roy, était quand même un peu déçu au micro de Thomas de Saint-Léger.
Il y a deux sentiments. C'est vrai qu'il y a un sentiment positif, effectivement, par rapport au fait que je trouve que mon équipe, et c'est la volonté, a été acteur quand même de ce match. Et là, on peut ressentir un peu de fierté par rapport à ça. Et puis après, quand même, pas mal de frustration parce que je trouve que le score est lourd quand même par rapport à ce qu'on a produit, par rapport aux situations qu'on s'est créées. On est obligé de reconnaître qu'il y a plus de talent du côté du Real que dans notre équipe. Après, je crois que les garçons ont donné, ont essayé de donner le maximum. De ressortir avec un peu de déception, c'est la preuve que quelque part, on a peut-être progressé.
Progresser, oui. En tout cas, on les encourage, nous, les Pirates. Et on a envie de leur dire, Benjamin, continue à nous épater.
Bien sûr. Après, je peux comprendre Eric Roy. Quand on est un entraîneur ou même un joueur, on toujours déçu du résultat, hein, peu importe l'adversaire.
Mais c'est vrai en plus qu'on a en qu'il face. Était sévère ce 3-0. Parce qu'à un moment, si les auditeurs ne l'ont pas vu, voilà.
Parce qu'avant le premier but, ils tiennent bien. Hein,
bien
Brest,
sûr,
ils tiennent
bien.
Ils ont été loin, loin, loin d'être ridicules.
Et quand il y a une égalisation qui finalement sera annulée, pour un quart d'épaule, on va dire, enfin un truc ridicule, on se dit.
Après, c'est la règle, on ne peut rien.
Mais ça aurait pu changer la tournure du match.
Ça aurait pu changer la philosophie du match. Mais je crois qu'il peut être fier de son équipe, Eric Roy, parce qu'on ne les attendait absolument pas. On parlait de quelque chose d'historique, encore plus pour Brest. Maintenant,
ils ont peut-être
la malchance de tomber contre Paris. Ils peuvent tomber contre Paris, non?
Mais c'est ça, puisque Brest, c'est deux possibilités. C'est PSG ou Benfica. Je rappelle comment se passe ce tirage. En fait, on pensait au tout début, lorsque la création de cette compétition avait été faite, que le 9e tombait forcément contre le 24e, le 10e contre le 23, etc. Non. En fait, on a mis deux choix, deux possibilités, 9 10e contre 23 ou 24, pour justement empêcher les calculs potentiels de certaines équipes en se disant « Ah, je sais que X va finir 24e, que X va finir 23, vas-y, quitte à ce que je perde une place, je calcule, je prends un but, c'est pas très grave. »
Du coup, on refait un petit frisson, un petit tirage au sort.
Voilà, et ça permet d'avoir un petit tirage. Ouais. Juste demain, on le rappelle, tirage au sort ce vendredi, que des barrages. Mmh. Donc en gros, on connaîtra qui du 9 ou du 10e affronte le 23 ou le 24e, du 11 ou 12e affronte le 21 ou 22e. Ouais. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir quelque chose.
Mais franchement, je trouve ça quand même bizarre parce que pour moi, c'est trop tôt que deux clubs français puissent se rencontrer.
C'est dommage.
Parce que
ce
vous êtes habitué à ça, Benjamin.
Non, oui,
c'est des. Ou Benjamin ou City Real aussi. On se demande.
Oui, puisque City affrontera forcément le Real ou le Bayern.
À la limite, ça va. C'est un club anglais et un club espagnol.
Mais en barrage.
Oui, ça, je peux comprendre.
C'est-à-dire
des clubs des mêmes pays, par exemple.
Deux finalistes potentiels, quand même. Bah
oui.
Mais City Real, c'est les deux derniers vainqueurs de la Champions, hein.
Deux vainqueurs potentiels.
En 16e de finale.
Ça
fait une belle
affiche en 16e de finale, non?
Oui, alors après, bon, on met ensemble beaucoup de clubs qui ne sont pas champions de leur club, de leur championnat.
City n'avait qu'à terminer parmi les 8 premiers.
Et c'est ça, parce que effectivement, on dit ça des gros, mais il fallait faire les efforts. Fallait pas qu'Aston Villa termine devant, fallait pas que Lille soit là. Ben, eux, ils ont fait le travail.
C'est la première édition. Je pense qu'il y a certains grands clubs qui ont mal calculé leur coût. On sait très bien que le Real, quand c'est des matchs de poule avec 4 équipes, puis il l'a fait relativement vite. Là, ils ont un peu lambiné. Ils ont lambiné en chemin comme
beaucoup de grands
comme City.
Parce
que dans ce
groupe, on va y venir tout à l'heure au classement, mais parlons quand même. Vous parliez de City, faut en parler de City.
Oh là là.
Alors ils seront de la fête.
Incroyable.
Parfois on dit qu'il y a pas de mérite au foot, mais là franchement eux, quand on a vu ce qu'on a vu, on se demandait s'ils méritaient d'être là. Mais ils y sont. Pep Guardiola, lui, il n'avait jamais manqué un rendez-vous en phase éliminatoire, donc il sera là lui aussi. Manchester City qui s'est fait peur hier en plus, hein, on commence bien, Bruges qui marque un but, on se dit non mais, et c'est à City, à Manchester, ils ont finalement gagné 3-1 après avoir encaissé ce but du FC Bruges, et Pep Guardiola est enfin soulagé.
On était éliminés à la mi-temps, et quand on n'a plus rien à perdre, parfois on se met à mieux jouer. Des joueurs peuvent se révéler comme Savinho qui a totalement changé le match. Bruges s'est mis au marquage individuel, ce qui a permis à nos joueurs de faire des différences. Et maintenant, on est toujours dans la compétition. Dans deux semaines, on sera meilleur, nos recrues seront là. On va jouer contre un géant et on verra bien comment ça se passera.
Bon, ils se sont mis à jouer, puis il y a eu quand même quelques arrangements tactiques de la part de Pep Guardiola, Salim.
Mais ce qui est vrai, c'est que Savinho, ça a changé beaucoup de choses. On le rappelle, Savinho, pour nos auditeurs qui le visualisent, c'est Riyad Mahrez. Entre même dans sa manière, je dis bien dans sa manière d'être, hein, le gabarit, le pied gauche.
Nabil vous écoute.
C'est ça. mais sauf que Savinho, depuis qu'il a été replacé, à gauche. Ouais. Donc, en étant sur son pied fort à déborder et à centrer potentiellement, je vous assure, c'est le pendant de ce que Mahrez était sur le côté droit, entre guillemets.
Il y a l'amorti en pleine course.
Et notamment, et son but, c'est effectivement un contrôle et la frappe enchaînée.
Je ne connaissais pas ces capacités-là.
Et Savinho, vraiment, depuis qu'il était replacé sur ce côté, il est très intéressant, même en championnat depuis plusieurs semaines. Ça a changé beaucoup de choses. Et c'est vrai que City s'est réveillé en seconde, mais c'est vrai qu'à 1-0 à la mi-temps pour Bruges, on se dit. City va sortir. Ben non, City s'est tenu, mais c'était compliqué.
Ce genre d'histoire arrive. Rappelez-vous, Chelsea en 2012, il frôle la correctionnelle à Naples.
Absolument.
ils finissent 6e ou 10e du championnat, mais c'est une saison absolument pourrie. Et en fait, c'est dans la difficulté que l'équipe s'est soudée. Donc, faut pas enterrer Manchester
City.
Ils ne peuvent que s'améliorer. Eux aussi, ils ont recruté là, donc dès les barrages.
Ouais, Marmouche, Kouzanov.
Kouzanov, ils pourront jouer, même si Kouzanov, bon, ça a été difficile le week-end. Mais non, je pense qu'on parlait des déclics. Est-ce que des déclics pour le PSG, est-ce que ça va être les déclics pour City? C'est possible, parce qu'à la mi-temps,
ils font un 6-0 en championnat. On se dit c'est le déclic, puis pas du tout. Donc,
oui, mais je pense qu'à City, le mal, il est beaucoup plus profond.
C'est pour ça que je ne crois pas que le recrutement va changer énormément de choses.
Je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose.
Pas comme ça,
Ils ont sauvé l'honneur, en tout cas.
Oui, parce que sortir comme ça dès la phase du premier tour, ça devait être...
Juste, le mal est plus profond, mais malgré tout, il y aura un gros test pour City ce dimanche. Il y a Arsenal City. Imaginez, ils réussissent une performance à l'Emirates, ben là on se dira, ah ben peut-être que, alors le mal est plus profond, mais peut-être qu'ils ont quand même réussi à avoir leur déclic. À voir.
Voilà, à observer.
Les joueurs, ils sont là,
évidemment. En tout cas, dans ce classement, Liverpool reste premier. Un petit raté quand même, ils nous faisaient un sans faute.
Oui.
Ils ont loupé le dernier match. En plus, Arne Slot, aux Pays-Bas.
Il a été assumé par Arne Slot. Il y a 12 cadres qui ont été mis de côté.
Ah oui, bien sûr.
Et Arne Slot l'a assumé. Et c'est un fait, on le rappelle au tirage, être premier ou deuxième, entre guillemets, ça ne change rien. Ouais. Je mets les guillemets parce que le premier et le deuxième ne pourront s'affronter.
Mais il y a l'honneur.
D'une part, et vous avez raison. Et il y a 2 millions d'euros aussi, puisqu'une victoire, c'est 2 millions d'euros.
Ouais, bon, alors, eux, à leur niveau.
Mais d'être premier ou deuxième fait que vous êtes dans deux parties de tableau différentes, ce qui fait que Liverpool et Barcelone, s'ils avancent, ils ne pourront s'affronter qu'en finale. Donc, finalement, d'être premier ou deuxième, entre guillemets, ne change pas grand-chose.
Est-ce que, selon vous, dans ce classement des 8, il y a un ou des intrus, Benjamin? Parce que, évidemment, quand on regarde, on se dit c'est sûr qu'il y a 3 clubs anglais. On ne conteste pas la suprématie.
Villa, ça peut surprendre.
Mais on se dit qu'il y a quand même Lille et pas le PSG. On se dit qu'il y a l'Atlético et pas le Real. Il y a Aston Villa, qui est quand même le 3e club anglais. Ça vous surprend, vous aussi, un peu ce top 8 ou c'est une photo temporaire?
Ça peut surprendre parce que quand on commence la saison, il y a forcément des équipes qui sont, en principe, appelées à terminer. On croit qu'elles vont terminer, mais il ne faut pas aussi enlever le mérite de ces équipes-là, d'Aston Villa, de Lille, qui tout de suite, d'entrée de jeu, sont allées gratter des points où les gros traînaient le pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent là, pour moi, à juste titre. Mais maintenant, la compétition, elle n'est pas terminée. Je suis persuadé que les grandes équipes vont se réveiller. Là, on entre dans une autre phase
de la
compétition.
C'est l'odeur du sang, là. On adore les matchs
éliminations directes. Et on sait qu'une équipe comme le Real, elle adore ça quand on arrive à ce niveau de la compétition.
Et juste pour prolonger votre propos, je rappelle qu'entre la 6e place, Leverkusen, et le 13e Milan, donc il y a 8 équipes, de la 6 à la 13, il y en a 8, il n'y a qu'un seul point d'écart entre le 6e et le 13e.
D'ailleurs, le premier relégable a le même nombre de points, c'est-à-dire Zagreb,
11 points.
Entraîné par l'Italien Fabio Cannavaro, on a découvert ça, il a le même nombre de points que Bruges.
Absolument, et que Manchester City. Ouais. Ils ont le même nombre de points, c'est dire que ça se joue à rien, ça s'est joué à un but près, ça s'est joué à un petit détail près.
On savait depuis le départ qu'on aurait une photo, peut-être pas qui reflète exactement l'état des forces en présence.
Plutôt l'état d'esprit, peut-être, Shérif.
Pardon ?
L'état d'esprit, peut-être, plus que l'état des troupes. C'est-à-dire, je pense à Lille, je pense à Brest, des équipes comme ça. On se mobilise dès le début. Ouais, alors que les autres, les connaît, les grands clubs, qui voient un peu, qui se disent, bon, on s'en sortira.
Oui, et puis il y a des petites équipes qui ont fait des bons résultats. Celtic, ça a été correct.
Absolument.
Étoile Rouge. C'est, comment dire... Par contre, on savait qu'il faudrait attendre la dernière journée à 23h pour être définitivement fixé et que, comme tu l'as dit, pour certaines équipes, ça se jouerait à un point, à deux points et tout. Donc voilà, à un but, tout à fait. Donc voilà, je ne suis pas très très chaud pour cette nouvelle formule, pour des tas de choses qui, moi, je pense, font que... On est en train de nous habituer quelque part à un mini-championnat, donc l'esprit de la Super League est là.
Ah là ! Voilà là !
Non, puis le truc, c'est qu'on se fait avoir, c'est par les émotions. On a 4 clubs français qualifiés, donc on a adoubé et on a validé cette compète. Moi, ça m'inquiète un peu parce que ça va peut-être nous pousser à valider la Coupe du Monde des clubs si on a 2-3 clubs français qui performent. Mais à côté de ça, Je me mets à la place d'un gamin de 12 ans, un Brestois, un petit Brestois de 12 ans.
L'histoire est belle.
Il aura des étoiles dans les yeux toute sa vie. Donc bien que les petits, c'est bien que Brest ait accueilli Real Madrid. C'est un truc totalement improbable.
Les aventures
épiques. Comme je défends. Voilà.
Les aventures épiques de certains clubs. Évidemment, nous, on se souvient de Saint-Etienne quand on était petit. Voilà, c'est vrai que ça marque une génération.
On défend l'universalité du sport et du foot. Donc voilà, que Brest puisse accueillir Real Madrid, je m'incline.
Et j'insiste, pas uniquement club français. Club, peu importe les nationalités.
Et toi, rouge, qui va accueillir le Barça.
Ça, et puis, je rappelle, il y a eu des performances. On parlait de Stuttgart. L'étoile rouge, comme 5 à Stuttgart. Ouais. Le Brest qui fait 1-1 contre Leverkusen. Il y a eu des choses assez folles. Moi, je vous avoue, alors vous parliez des émotions, là où je vous rejoins, le coup des 18 matchs en même temps de Ligue des Champions, c'est vrai que ça a créé un truc un peu dingue, un peu fou qu'on n'avait jamais vu. On l'avait juste vu en Europa League, Conference League, mais pas en Ligue des Champions. Ça crée quelque chose. Après, c'est même pas la question des nationalités, c'est, je pense, le côté champion, le côté presque. Ah, on a qu'une chance, on ne joue qu'une fois face à une équipe et pas deux. Ça le coup des matchs aller-retour, on dit que sur un aller-retour. Mais je peux l'entendre, mais d'autres vous diront, je ne joue qu'une fois, donc je peux vraiment tenter ma chance là aussi à un aller-retour. Je sais qu'au retour, je vais me faire torpiller par le plus gros. Là, sur une fois, sur 90 minutes uniquement, je peux avoir ma chance.
Peut-être moins de calcul.
Trop d'inégalités. Bon,
en tout cas, dans cette orgie de matchs, Shérif, on aura vu ce que vous avez beaucoup aimé, des quatrièmes maillots. Respecte-t-il ou pas les valeurs du club? Alors il y a un article très intéressant que vous avez publié.
Alors,
sur
que ce soit en Ligue des Champions
Eurosport
ou en championnat. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui galvaudent leurs couleurs historiques et qui le font à domicile.
Paris Saint-Germain.
Avec des fois, c'est même pas le premier, le deuxième, le troisième maillot. Ouais. C'est un quatrième maillot, voire un maillot inventé comme le cas du PSG.
Mais tu sais pourquoi, Shérif?
Oui,
je devine.
Voilà.
On dit pas le mot. Je laisse deviner.
J'ai vu parce que j'ai fait ça en profondeur et tout. Parce que faut pas oublier que il y a les maillots officiels de la saison et ensuite aussi, ils commencent aussi à vendre les pré-matchs, les trainings. Mais tout ça, c'est des maillots, des vrais maillots. Et avec des couleurs, mais qui n'ont rien à voir avec l'histoire du club.
En quelques secondes, juste pour vous dire, pour avoir assisté notamment dans des boutiques, l'une des plus belles boutiques en Angleterre de club, c'est à Arsenal, qui est une très belle boutique. Et les maillots les plus vendus ne sont plus maintenant des maillots classiques rouge-blanc. Non, c'est le maillot d'échauffement qui sont très beaux. Et le maillot d'échauffement, il est survendu parce qu'il est un petit peu moins cher que le maillot classique et les gens se disent ah mais il est cool et ça fait penser à mon club de manière originale.
Les maillots training, il y en a quatre
ouais,
couleurs.
Ouais, beaucoup trop.
Et bon, du coup quand il vient au stade, on a l'impression qu'on n'est pas Arsenal là.
Absolument, totalement, vous avez raison.
Bon, il faudra lire donc l'article de Shérif Guémour sur le site d'Eurosport. Allez, on quitte un peu la Ligue des Champions et on retourne en Bretagne.
Comme vous avez pu le constater hier, donc nous avons officialisé le départ de Bruno Genesio. Je voulais aussi saluer la présence de Julien. Je lui souhaite la bienvenue au Stade Rennais, un club qu'il connaît parfaitement bien. Je souhaite vraiment la bienvenue, lui faire preuve aussi de mon soutien, mais également du soutien de tout le club qui est ravi de l'accueillir à nouveau.
Quelques mots avant de vous présenter le nouveau coach du Stade Rennais. On est ravis d'accueillir Georges et son staff au sein du Stade Rennais. On a regardé ce qui pouvait correspondre le mieux au Stade Rennais après que nous ayons remercié Julien.
Une petite valse, un petit air comme ça à l'accordéon, un petit tour et puis s'en va. Et cette fois, vous avez entendu cette succession. Eh bien, la succession de Sampaoli semble ouverte du côté du Stade Rennais. Alors, il faut dire qu'il a été recruté il y a 2 mois, l'Argentin. Et son bilan en 2 mois, eh bien le club est passé, je crois, de la 12e ou 13e à la 16e place. Là, il est barragiste carrément. Il y a eu 10 matchs depuis qu'il est là, 7 défaites. Donc, on va le reconduire à la porte. Et puis, bien, il y aura un successeur dans les prochaines heures. Vous avez joué à Rennes, Benjamin, vous nous le rappeliez, donc vous connaissez aussi ce club. Mais on s'était beaucoup posé la question, parce qu'on se souvient du passage de Sampaoli, éruptif, là-bas avec les Marseillais, les Fadas de Marseille, c'était un peu dans la ligne Bielsa, ça allait bien. Et dès le début, on s'était dit, on dirait une erreur de casting. Est-ce que selon vous, ces 2 mois confirment ?
Bah oui, les résultats, vous avez rappelé tout à l'heure les résultats. Mais je pense même qu'au-delà de ça, à Rennes, le mal, il est beaucoup plus profond que ça.
Parce que quand en début de saison, vous partez, ils ont viré Bruno Genesio, ils sont partis, ils ont rappelé Stéphane qui était déjà là, qu'ils avaient viré avant.
Totalement.
Déjà là, on comprend qu'il y a un problème dans la gestion de ce club. Et derrière, je ne sais pas si vous avez vu les recrues qui sont arrivées, il y en a qui sont en train de repartir. Mm-hmm. Oui. Donc, ça veut dire que l'organigramme de ce club a vachement changé. Pour moi, ce club que j'ai connu, c'était un club plutôt stable. On était dans la stabilité.
Oui, et qui dépensait peu aussi.
On dépensait très peu, on n'essayait pas de faire de folie.
Eu égard à la fortune du propriétaire, on se disait, c'est pas le PSG.
Et là, du coup, on nous a ramené Sampaoli. Moi, je l'avais dit, que je ne suis pas sûr qu'il va révolutionner quelque chose. Et quand vous voyez aussi ses choix, on peut s'interroger. Je ne sais pas si vous avez suivi le match contre Monaco ce week-end et la sortie de Sekou Fofana.
Absolument.
Sekou Fofana l'a dit au micro de Bean.
Ah oui, il a été...
Il a été dur.
Très dur.
Et moi, j'ai su qu'après cette sortie-là, il y a quelque chose qui allait se passer du côté de Rennes. Parce que, il n'était pas content du choix de l'entraîneur. Quand vous avez votre leader qui vous fait comprendre que si j'avais été entraîneur, j'aurais fait différemment, ça veut dire qu'il y a déjà
un problème. Il l'a dit texto.
Et il a
dit. C'est ça qui est important.
Donc, ça veut dire que... Il y avait déjà un problème, parce que Sekou Fofana, on sait qu'il est milieu, relayeur, à Lens, il était performant à ce poste-là.
Exactement.
Et que son entraîneur nous explique que parce qu'il n'est pas bien physiquement, je le fais jouer attaquant gauche.
À gauche en plus, tu dois multiplier les efforts et les courses.
Il n'y a rien qui va.
Alors que le mec, il a...
Je lui ai posé la question à Sekou, j'ai dit, mais il se passe quoi? Il m'a dit, mais je ne suis pas entraîneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis obligé de faire ce que le coach me demande de faire, mais on sentait qu'il y avait déjà une tension entre Sampaoli et ses joueurs, ses choix étaient discutés et étaient discutables. Et ben pour moi, aujourd'hui, c'est logique qu'il ne soit plus entraîneur.
Surtout qu'on se rend compte, là, les derniers recrutements. Alors, c'est tout du côté de Lens. On fait venir Brice Samba, alors qu'il y a Steve Mandanda.
C'est la panique.
Enfin,
c'est la
voilà, exactement. Ouais. On les paye des salaires énormes, alors que justement, Rennes ne nous avait pas habitués à ça. Ouais. C'est effectivement, on a l'impression que le mal est profond. Où va ce club ?
Quand je pense à Rennes, je pense à la discussion que j'ai eue avec Gervais Martel. On est allé l'interviewer pour SoFoot et il nous avait raconté la saison catastrophe quand ils sont descendus en L2.
Alors Gervais Martel était à Lens.
Ancien président de Lens. Il était à Lens. Et il raconte, il dit, regardez l'effectif qu'on a en début de saison, on n'y croit pas. Il y a des mauvais résultats qui commencent à arriver, on n'y croit pas. On ne se dit pas qu'on va être, vivre une saison dangereuse. Et il dit, et à un moment, on est pris dans le tourbillon. Il dit, à partir de là, vous pouvez ramener qui vous voulez comme entraîneur, vous pouvez renforcer avec n'importe quel joueur. Il dit, on est dedans. Mais on y croit encore parce que les matchs passent. Il dit, mais au bout d'un moment, les matchs passent, on commence à se dire, là, on va vraiment jouer le maintien. Et au bout d'un moment, il y a l'horreur, on va descendre. Et moi, j'ai l'impression de voir ça. Alors, là, c'est pas encore trop tard, on est juste fin janvier.
Ça
mais gare au nouvel entraîneur qui va arriver à Rennes, le mal est peut-être très, très, très profond.
Il a intérêt à être solide. Est-ce que vous croyez que ce club, quand même, qui a des moyens, qui veut encore recruter un Lensois, un défenseur Lensois,
sur le terrain,
est-ce que vous avez la sensation qu'il puisse se descendre, Salim, ou l'année dernière, on dirait Lyon, ils étaient aussi longtemps barragistes, ça ne se passera pas à Lyon. Est-ce que là, on peut dire ça?
Mais le truc, ça dépendra aussi du profil de la personne qui arrive sur le banc. Soit on est en mode... pompier, vous allez me dire, quoi qu'il arrive, la personne qui arrivera sera un peu pompier, parce que quand on est 16e, on est obligé. Mais avec malgré tout des idéologies de moyen long terme. Le nom qui revient, il y a deux noms qui reviennent apparemment, Habib Bey et Pierre Sage. Là, on se dit, si on leur laisse du temps réellement, c'est des personnes...
Mais est-ce qu'ils ont le temps?
Mais justement c'est, d'une part, si on leur laisse le temps, si on leur laisse le temps, parce qu'il y a quand même du matériel. Individuellement, vous avez des joueurs de qualité. Si vous les faites jouer, vous avez pris l'exemple de Sekou Fofana,
à son poste,
réellement, si déjà vous mettez ne serait-ce que leurs joueurs à leur poste, il y a peut-être des choses qui peuvent évoluer. C'est pour ça que je ne suis pas encore inquiet, si vous avez pris le très bon exemple de Lens.
Oui, la spirale, on
attend un petit peu. Mais c'est un très bon exemple. Attendons un peu, mais là, aujourd'hui, je ne suis pas inquiet.
Il faut stopper la spirale.
Ça dépendra effectivement de la personne.
Parce qu'il y a des clubs comme ça, comme tu dis, tranquille,
même Monaco à l'époque aussi.
Voilà. Mais quand ils se retrouvent dans des situations dangereuses, les commandes ne répondent plus. Bon, après, ceci dit, il y a Montpellier et Le Havre qui sont...
Alors, on verra les prochaines heures si notre ami Habib Bey, qu'on respecte tant, peut être nommé du côté de Rennes. N'oubliez pas, les amis, demain, c'est le Café des Sports. On attend vos cartons. Les filles, s'il vous plaît, mobilisez-vous. À demain.